La revue de presse internationale. Bonjour Adrien Taufollet.
Bonjour Chloé, bonjour à tous.
Et la presse consacre ce matin une grande place aux analyses sur le choix de Kamala Harris comme colistière de Joe Biden pour la présidentielle américaine.
Oui, il y a finalement peu de portraits de Kamala Harris dans la presse américaine ce matin. Preuve que beaucoup de choses ont déjà été écrites sur ces dernières semaines sur elle, sur son profil, sur son parcours. 55 ans, fille d'un afro-américain et d'une indienne, famille militante, procureur à San Francisco, puis procureur général de Californie, candidate à l'investiture démocrate, voilà ce qu'on peut lire rapidement sur CNN par exemple. Preuve également que ce choix par Joe Biden est le moins surprenant, le plus attendu de sa part, au point que quand Bloomberg publie son article sur le sujet, l'auteur précise que le fait même qu'on puisse considérer ça comme une nouvelle fraîche est profondément barbant, ennuyeux. Un rapide coup d'œil sur la liste des possibilités qui s'offraient aux candidats démocrates permettait depuis longtemps de dégager un nom, ce nom, Susan Rice, l'ancienne conseillère hier à la sécurité nationale d'Obama, trop technocrate, pas assez flamboyante. La sénatrice du Massachusetts et candidate à l'investiture démocrate, Elizabeth Warren, trop à gauche, donc trop clivante. Et quelques autres noms au CV encore trop peu fournis ou sans aura nationale. Tout le monde parlait déjà de Kamala Harris comme d'un choix évident de colistière. Même dans le camp Biden, rappelle Reuters qui cite les propos d'un stratège démocrate datant de juin. Ce sera Harris, ça a toujours été Harris. Le flou, le suspense, n'aurait finalement été entretenu que dans un but, donner une présence médiatique à Joe Biden au moment où la campagne présidentielle est reléguée au second plan à cause de la pandémie de coronavirus. Le ticket Biden-Harris, une évidence à bien des titres, donc rappelle de nombreux journaux. L'homme et la femme, le blanc et la noire, le pilier du parti et la relève, le centre droit et la centre gauche. Et c'est aussi, précise le New York Times, le binôme parfait pour répondre à celui qui se trouve en face, Donald Trump-Mike Pence. Pence, l'ultra-conservateur, est à l'exact opposé de la progressiste Harris. C'est non seulement une confrontation de politique et de philosophie, c'est aussi une extraordinaire collision d'expériences de vie. Et c'est d'ailleurs désormais un vrai problème pour le parti républicain, analyse Politico, car d'habitude, les candidats à la vice-présidence importent peu, ou tout du moins pas autant qu'aujourd'hui, avec le contexte qu'on connaît, celui de l'Amérique post-MeToo et de l'Amérique post-George Floyd.
Effectivement, le choix de Kamala Harris est un positionnement fort pour la campagne de Biden, mais au-delà, Adrien, pour l'avenir du parti démocrate.
Oui, Joe Biden le répète lui-même, il aura 78 ans en novembre au moment de l'élection. Il se présente en candidat de la transition, avant donc une candidature naturelle d'Harris en 2024 ou même peut-être plus tôt, en plein mandat si la santé du président est défaillante. Le scénario est très sérieusement étudié. Mais surtout, dissèque Bloomberg, le choix d'Harris en dit finalement plus sur le parti qu'il n'en dit sur la course à la présidence cette année. Kamala Harris incarne le futur courant dominant du parti démocrate. Elle est le compromis idéologique face à la montée des socialistes. Et puis, l'avenir du Parti démocrate est féminin, il l'est déjà en réalité aujourd'hui. Tous les visages actuels du parti, mis à part Biden, sont des femmes et des femmes puissantes, que ce soit Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants sur la ligne modérée, ou Alexandria Ocasio-Cortez sur la ligne plus à gauche. Choisir Kamala Harris revient finalement à enfoncer le dernier clou. Tout cela, les stratèges républicains l'ont parfaitement intégré, détail Politico. C'est la raison pour laquelle, dès les minutes qui ont suivi l'annonce de son choix, les réactions ont été virulentes, à commencer par l'équipe de campagne de Donald Trump, qui parle de la phony Kamala, la fausse, l'hypocrite, et dénonce un prétendu agenda extrémiste du Parti démocrate. Le Comité national des républicains a embrayé derrière avec un mail à la presse intitulé « La gauchiste radicale Harris donne aux démocrates leur ticket le plus extrémiste de l'histoire ». Et dans les jours à venir, le média politique américain, on devrait voir ressortir de vieilles histoires la concernant et des déclarations. The Hill, par exemple, le média conservateur, vient de remettre en avant sur la une de son site un article de l'année dernière sur la position de Kamala Harris au sujet des accusations d'agressions sexuelles et de comportements inappropriés de Joe Biden envers plusieurs femmes. « Je les crois », disait à l'époque Harris, « je les respecte de trouver le courage de raconter ce qu'il s'est passé ». Mais il n'est pas assuré que cette stratégie offensive soit payante. Nombre de ses propos et des attaques qu'elle a pu produire contre Biden pendant la primaire ont déjà été discutées, critiquées. Fox News rappelle d'ailleurs qu'en 1980, pendant la primaire républicaine, George Bush Senior avait qualifié le programme économique de Reagan de vaudou, mais que cela n'avait pas empêché de devenir son vice-président. Pareil en 2008, avec Obama et Biden, note le New York Times. Obama avait même tourné à son avantage. En pardonnant les mots durs de Biden, il avait renforcé un trait de sa personnalité, sa générosité d'esprit.
Direction à présent la Nouvelle-Zélande. Irlande qui prend des mesures radicales de lutte contre le coronavirus.
Oui, et ça aurait de quoi étonner beaucoup de monde. En France notamment, les autorités ont très bien géré l'épidémie. 22 morts depuis le début sur une population de 5 millions d'habitants. Mais 8 nouveaux cas de Covid-19 viennent d'être détectés dans le pays. Les premiers répertoriés depuis 102 jours. Comment ont-ils été contaminés? Cela reste un mystère. Il s'agit d'une famille d'Auckland, dépistée il y a quelques jours, et de collègues de travail et de voisins détectés ce matin, nous explique le New Zealand Herald. Pourtant, les frontières de la Nouvelle-Zélande sont fermées aux étrangers et tous les citoyens qui arrivent doivent respecter une quarantaine. Alors face à cet inconnu, le gouvernement a décidé de confiner Auckland, 1 700 000 habitants, l'une des plus grosses villes du pays, depuis ce matin et pour 3 jours pour l'instant. On a vu hier, c'est raconté par le magazine Stuff, les habitants de la ville se ruaient sur les supermarchés pour faire des provisions. Les forces de l'ordre installaient des checkpoints aux différents accès de la ville pour empêcher ceux qui ont une maison secondaire de filer à la campagne. Les règles de distanciation sont de nouveau imposées. Seules les sorties pour le travail sont autorisées. Les allées et venues des citoyens sont de toute façon répertoriées sur une application Covid, donc surveillées. Le port du masque, lui, n'est pas obligatoire, mais vivement conseillé. Bref, autre pays, autre méthode.
Merci. Adrien Toffolé, votre revue de presse internationale est à retrouver sur franceculture.fr.